The vibes.
R2 tout le monde. Distant islands, spectral cities.
Bah, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité importante et une amie. Les deux ont leur importance. Françoise Vergès, qui est théoricienne politique, est aussi beaucoup d'autres choses. Et j'ai invité Françoise à un petit peu ce moment d'introduction, de retraverser en fait des questions d'indépendance, d'autonomie, d'internationalisme en lien avec la Caraïbe, comme une espèce de manière de démarrer notre histoire, pour vous dire aussi que au long de la semaine, dans cette recherche-là, j'ai cherché aussi à développer des spirales temporelles, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des événements, on va tourner autour de certaines périodes, notamment les années 80, qui ont une grande importance dans cette histoire, dans une méthode qui est justement pas du tout chronologique, mais qui veut connecter les espaces et le temps comme des choses qui sont pas simplement des événements perdus, mais des occurrences passées, ce que j'appelle des blueprints, donc des épreuves de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc reprendre le passé non pas comme un ni révolu ni échoué, mais comme plutôt les premières tentatives de choses qu'on devrait réengager aujourd'hui autrement dans le contexte dans lequel nous vivons. Merci à toi Françoise d'avoir accepté l'invitation, c'est à toi.
Bonjour, merci pour cette invitation, merci à Olivier, à Sheila, à Ulippe. J'ai la tâche d'introduire un peu la semaine, qui va être certainement très riche. Et Olivier soulignait l'importance de l'amitié, et l'amitié est une très grande force en politique. C'est absolument fondamental dans la pratique politique. Une amitié justement qui n'est pas cette amitié un peu trop sentimentalisée, mais qui est profonde, qui est celle dont on sait on peut compter sur ces personnes quand c'est dans les moments difficiles. Je veux dire, c'est là. Et donc, cette amitié politique est extrêmement fondamentale. Donc, moi, quand Olivier m'a demandé de parler des indépendances contrariées, j'ai voulu prendre donc ce terme contrarié vraiment de manière très sérieuse et de comprendre pourquoi, par qui et comment ces indépendances ont été contrariées. Autrement dit, par qui, comment et elles ont été empêchées d'aboutir et d'agir. Quelles ont été les raisons de ces empêchements, de ces contrariétés? Qui en furent les acteurs? Quelles en furent les armes idéologiques, mais aussi les armes, des armes légales, des armes de l'État? Je ne vais évoquer que ces points, car en fait, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire une véritable recherche sur aussi ce qu'a constitué les circulations d'idées et qui analyserait à la fois globalement et localement les forces en présence dans ces poussières d'îles, hein, de la Caraïbe et d'ailleurs, pour reprendre les termes d'Olivier, les formes de pacification forcée, de répression des luttes et de dispersion des peuples. Quelles formes surgiront de cet exil européen? Quelles traces de cette histoire en rive jusqu'à nous. Donc, renouveler l'analyse critique dans un moment actuel de contre-révolution globale, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi cette histoire à la fois dans les contre-révolutions de ces années, mais aussi actuelles, qui prend des formes de fascisme, d'ethnonationalisme, de féminicide, de réactualisation de l'islamophobie, de la négrophobie, de transphobie, mais aussi de réutiliser le racisme comme une arme de division, hein, de lancer des racisés contre les racisés. Et d'étudier comment ça se passe dans nos poussières d'îles. Alors, cette contre-révolution, qui, comme l'analysait George Jackson, là, je parle de l'auteur des Frères de Soledad, ou d'Angela Davis, qui est dans les années 70, analysait la contre-révolution non pas comme quelque chose qui arrête, non pas seulement comme une réaction, mais aussi comme une prévention, c'est-à-dire d'arrêter et d'entraver le développement du mouvement révolutionnaire. Donc une contre-révolution qui émerge de la peur de voir des mouvements émerger, et qui à la fois donc veut l'arrêter, mais aussi entraver son développement, la capacité d'alliance et de plateforme au niveau international. Et c'est une contre-révolution actuelle qui a des formes hétérogènes, mais qui a en commun la préservation de la colonisation de peuplement comme un peuple. Ah, ça, c'est un problème avec moi. Bon.
C'est parce que vous dites des termes très importants.
Non, mais en plus, je parle toujours très vite, ça, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Donc je vais... Ouh là là, il va falloir parler lentement. OK. Une contre-révolution aux formes hétérogènes, et qu'il faudrait analyser donc la contre-révolution des années, de 50 aux années 80, hein, vraiment ça, et puis celle d'aujourd'hui, et qui avait en commun pour moi toujours la préservation de ce que j'appelle la colonisation de peuplement, sur laquelle repose la création de la démocratie libérale. Qu'il faut vraiment très comprendre qu'il n'y a aucune démocratie libérale qui ne se fonde pas sur la colonisation de peuplement. Quand on regarde par exemple l'Europe, l'histoire de l'Europe, la formation des États qui se forment sur l'expansion esclavagiste, coloniale esclavagiste, puis coloniale post-esclavagiste. Mais l'exemple peut-être le plus clair de ce mariage entre colonisation de peuplement et démocratie libérale, c'est les États-Unis. Des États-Unis qui se fondent sur le génocide, le nettoyage ethnique, la dépossession, l'écocide, et qui se forment en tant que démocratie libérale, en tant que démocratie républicaine. Relisons la déclaration d'indépendance, elle se présente comme anticoloniale contre l'absolutisme de l'Europe, et donc en fait une nouvelle démocratie, une nouvelle liberté, la notion de liberté est absolument centrale, donc qui se veut comme une révolution anticoloniale et démocratique. Or, cette révolution s'appuie, comme vous le savez, sur l'esclavage, elle ne va pas mettre fin à l'esclavage, et aussi ouvre à la conquête de peuplement. Et cet exemple qu'on retrouve au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais aussi par exemple en Argentine, est au cœur de la notion de démocratie libérale qui émerge donc au XVIIIe siècle, qui a sa formation en Europe et sa formation dans ce nouveau monde qui aujourd'hui se présente comme le seul moment libre. Et là, le dernier exemple de cette démocratie libérale peuplement colonial, c'est Israël, évidemment. Hein? Donc de voir comment tout cela s'organise et qui s'exprime évidemment par des politiques brutales et cruelles, anti-migrants, islamophobes et négrophobes. Donc, refaire une analyse critique des interactions et intersections entre les impérialismes aujourd'hui, qu'en est-il des impérialismes? Sont-ils de la même forme qu'ils étaient dans les années 60-70 et je pense qu'ils ont changé? Les génocides, évidemment, à l'époque et aujourd'hui, à Gaza, au Congo, au Soudan, mais aujourd'hui s'ajoute le désastre climatique qui s'annonçait déjà, mais qui est là vraiment, clairement sous nos yeux. Les idéologies racistes et les formes qu'elles prennent aujourd'hui, et le capitalisme racial d'extraction et son patriarcat. Donc, comme on m'a demandé de parler des poussières d'îles de la République française et que je suis assez obéissante, quelques remarques en préambule. Le capitalisme racial, il a besoin de segmenter le temps, de fabriquer de la division, ce qui n'est pas la même chose que la différence. Hein, on doit être très clair. Un autre point, la colonisation du monde repose sur deux termes, nouveauté et découverte. Il faut élargir le monde, nommer, tracer des frontières, rapporter des richesses. La domination se lit dans les cartes, les musées, les boutiques où les Européennes trouvent de tout. Ils font donc constamment redécouvrir. Le capitalisme racial est toujours à la recherche de nouveautés. Il recycle régulièrement les termes nouveaux, nouveau monde ou monde nouveau, c'est bien ça, monde nouveau, et la découverte. Ainsi, le pouvoir, de gauche comme de droite, découvre régulièrement un espace, sa culture et ses arts. Et en ce moment, il y a un retour de la découverte des Outre-mer. Nous sommes régulièrement découverts et redécouverts. Et il faut s'intéresser à cette notion de découverte. Je veux dire, il n'y a rien à découvrir. Mais justement, comment ça marche pour renouveler, en fait, la situation coloniale. Et le capitalisme racial a besoin, réellement besoin, c'est existentiel pour lui, de produire des marchandises qu'il doit présenter comme nouvelles. Hein? Donc extraction, recyclage, discours de la découverte, appropriation. Un petit mot donc sur ce régime colonial de la découverte. Au début du film, Les statues meurent aussi, qui avait été commandé par Alioune Diop, le grand intellectuel sénégalais, fondateur de la revue Présence africaine, de la librairie et des éditions Présence africaine. Donc, il commande aux réalisateurs Chris Marker et Alain René un film, donc ce film, Les statues meurent aussi, qui sera d'ailleurs interdit pendant 10 ans, qui sort en 1963. Parce que le film était trop critique envers les réalisations de l'Empire français dans les colonies. Mais au début de ce film, il y a cette phrase, et je veux la citer, donc je la cite. « Quand les hommes sont morts, disons. Ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce qu'on appelle la culture. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, quand tout cela entre au musée. Donc ça, c'est aussi la découverte, la transformation de quelque chose de vivant en objet mort. C'est ça, en fait, pour moi, dans l'économie coloniale. Et dans l'économie néolibérale, la reconnaissance s'accompagne toujours de spéculations, de mise en concurrence, de découvertes, de nouveaux génies, d'extraction d'idées, de formes. Il y a donc des appropriations par des universités qui transforment du vivant en matière morte. Il n'y a pas que le musée. Le vocabulaire de ces redécouvertes, de ces reconnaissances, de ces enfin pour la première fois, nous avons cette culture, concerne aussi des mouvements non seulement artistiques, mais des mouvements sociaux et culturels. Donc réécrire l'histoire de cette découverte, hein, de ces enfin pour la première fois. Et reconduit donc ce récit colonial d'une économie avide de nouveautés pour en faire des marchandises qui masquent des continuités, des survivances et des rémanences qui certes n'entrent pas dans le cadre de la visibilité, autrement dit de la reconnaissance institutionnelle et du récit du marché. Mais font vivre, loin de l'architecture de la plantation et de sa surveillance, des pratiques de désobéissance et d'ingouvernabilité, de ne pas être gouvernable, et des formes de vie en commun. Faire honneur à l'histoire de la résistance ne peut donc se limiter à fétichiser des ancêtres et des rites, à honorer des luttes, mais déjà reconnaître la nécessité d'agir. Alors, pour réaliser l'illusion de linéarité et de rupture, qui les deux se nourrissent, l'écriture occidentale de l'histoire sépare les temps et les générations. En ce moment, je crois qu'on a la génération Z ou Y, je ne me souviens plus, et les baby-boomers, pour effectivement entraver toute transmission intergénérationnelle et pour renforcer l'individualisme. Je me fais toute seule. Linéarité et rupture, en Europe, la marche vers le progrès repose sur cette idée d'une linéarité qui serait marquée par des ruptures, qui renforce en fait cette linéarité. On passe d'un Moyen-Âge qui serait obscur aux Lumières, hein, des Lumières à la République et ses valeurs. Donc en fait, on parle de rupture, la décolonisation comme une rupture, mais en fait, ce n'est qu'une reconduction d'une linéarité. Ensuite, par exemple, c'est un récit qui refuse les fragments et les bribes, hein, qui a besoin d'être complet. Et faire revivre les récits enfouis dans les archives, dans les mémoires orales, c'est travailler avec des bribes, avec des fragments, avec des absences, avec des effacements, sans chercher à forger un récit complet. Accepter une écriture avec des trous de mémoire. Se demander si le récit plein serait plus véridique, s'il n'est pas le résultat de l'hétéropatriarcat, du respect de la propriété privée qui a besoin que les papiers de famille soient préservés par des experts, notaires, avocats. Certes, il n'est pas question de négliger l'importance des papiers, hein, surtout en ce moment, ou des actes notariés. Ils ont servi et servent toujours de preuve contre les abus de propriété, de libération et le contrat. Mais ce dont je parle ici, c'est une écriture fondée sur les actes de propriété comme fondement de la colonialité. Donc peut-être écrire cette histoire à laquelle nous invite Olivier sans avoir peur des interruptions, des trous, des bribes, des absences. Penser les défaites comme des moments politiques. Donc pas de défaites dans le vocabulaire militaire, hein, de vaincus et des vainqueurs, mais dans le vocabulaire du politique, c'est-à-dire de penser la contre-révolution, ses armes, la censure, l'intimidation, l'emprisonnement, les poursuites judiciaires, la répression, les assassinats, la violence policière. La défaite, comme en fait un moment de la lutte, un moment où se renouvelle la lutte et non pas un moment où s'efface entièrement la lutte. Étudier la pacification des personnalités et des luttes. Les personnalités qui peuvent entrer au Panthéon et celles qui doivent rester en dehors des célébrations. Donc par exemple, le Césaire d'un cahier des retours plus natal peut entrer au Panthéon, mais pas celui du discours sur le colonialisme de 1950 ou de sa lettre de démission du Parti communiste français en 1956. Le glissant du Tout le monde peut être célébré, mais pas celui du discours antillais. La Maryse Condé de Victoire, les saveurs et les mots peut entrer, mais pas celle des essais sur la culture bossale. Est-ce vraiment une victoire de vouloir panthéoniser les personnalités? N'est-ce pas rechercher une respectabilité bourgeoise et blanche? Qu'obtient-on avec ces panthéonisations? Est-ce vraiment obliger la République française à reconnaître la valeur de ces personnalités, leur contribution à la culture française? Faut-il exiger d'entrer une fois mort dans ces institutions? Une révision de l'histoire des mouvements. Donc ça, c'est les questions que je pose. Ensuite, c'est des propositions que je fais. De commencer par une révision de l'histoire des mouvements révolutionnaires et insurrectionnels dans les Caraïbes, s'inscrivant dans des traditions comme celle d'un C.L.R. James ou d'un Walter Rodney, mais aussi des récits des anonymes, de ce qu'on appelle les anonymes. Montrer la singularité de ces émergences, de ces insurrections, non pas un exceptionnalisme, qui n'est souvent qu'une forme de nationalisme étroit, mais d'une réelle singularité qui résulte d'une cartographie, hein, d'une cartographie quand même particulière, l'arc Saint-Arc des îles, hein, qui relie des très grandes et des petites îles, et de formations sociales qui résultent de génocides, de colonisation, de l'esclavage, de lutte anticoloniale, et de circulation et d'échanges entre les îles et les continents, des Amériques, de l'Europe, de l'Asie. Un second point, peut-être, l'importance du monde paysan qui est très souvent oublié et de sa lutte pour la terre, qui a donné naissance, c'est ce que je propose, à un communisme international de la terre. Le monde paysan est très souvent oublié quand on parle des luttes dans les Caraïbes. Or, ce monde paysan a été central. Alors, d'une part, on nous a appris, compte tenu de l'histoire particulière des communismes en Europe et en Asie, à rejeter ou négliger le rapport de la paysannerie, de la paysannerie caribéenne au communisme. Pourquoi des ouvriers agricoles, pourquoi des ouvrières d'usine, des ouvriers d'usine de la plantation se sont perçus et ont adhéré à ce communisme. En quoi ce communisme anticolonialiste, qu'est-ce qu'il apporte, hein? Or, le discours européen occidental, on le sait, c'est que ce communisme n'a mené que des dictatures, des gouvernements autoritaires, et même l'anticolonialisme n'aurait mené qu'à des dictatures et des mouvements autoritaires. Les grandes insurrections des Caraïbes partent des luttes pour la terre, contre la privatisation par les classes dominantes blanches et pour un communisme de la terre. Il faudrait donc étudier la formation des classes sociales forgées par les luttes pour la terre, dans les luttes contre l'esclavagisme, contre le colonialisme post-esclavagiste et contre le post-colonial actuel anticolonial. Quelles sont ces classes sociales qui se forgent localement et en lien avec des événements ancrés dans leur région, région Caraïbes ou océan Indien pour la Réunion ou Amérique du Sud pour la Guyane, et qui ont un retentissement global? Quels sont ces moments, justement, la révolution haïtienne au XVIIIe siècle, mais aussi la révolution cubaine au XXe siècle, sans parler évidemment de la révolution aussi mexicaine, qui a un très grand impact dans la Caraïbe, ou évidemment les initiatives en Jamaïque ou à la Grenade. Comment ces classes répondent à la contre-révolution impérialiste, soutenue aussi par les services secrets dans cette région du monde, la CIA, le MI5, les services secrets français. Comment tout cela va compter? Ce récit contre-révolutionnaire qui a tout fait pour présenter ces révolutions et insurrections comme des bains de sang irrationnels, des soulèvements sans théorie, juste une expression presque musculaire et brutale. Un racisme structurel qui fonde le monde blanc. Comment aussi étudier les alliances entre les esclavagistes états-uniens et haïtiens, les esclavagistes caribéens et la contre-révolution en Europe, anti-républicaine, anti-révolution française? Comment toutes ces complicités pour le maintien d'un monde esclavagiste? Il faudrait donc revenir sur ces longues temporalités, sur ces spatialités, sur ces cartographies, celles qui se créent entre les îles, des îles à des continents, et les spatialités internes à ces îles, villes et campagnes. Je vais me concentrer ici peut-être sur quelques moments du XXe siècle, hein, puisque c'est ça auquel on est invité. Dans ce communisme international, anticolonial et internationaliste, profondément internationaliste, il faudrait étudier évidemment les journaux. Quels ont été les journaux? Qu'est-ce qu'ils disaient? De quoi ils parlaient? Moi, je me souviens des journaux, ils parlent de ce qui se passe dans le monde, ils racontent ce qui se passe dans le monde, ils disent, voilà, quelles sont les luttes dans le monde. La question de nouveau de la paysannerie, la question de la classe ouvrière, quelle était cette classe ouvrière dans les usines, sur les docks, hein, longue tradition de lutte des dockers et des marins, hein, dans le monde caribéen. Ces marins noirs, dont on connaît peu de choses, hein, qui apportaient des nouvelles et les récits d'un monde plus vaste et les possibilités révolutionnaires. des noms aussi, peut-être de se souvenir de George Padmore, hein, le leader de l'International Trade Union Committee of Negro Workers, de Henri Chichetot, fondateur du mouvement ouvrier en Guyane, et même aussi de noms comme Nat Roy, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, comme vous savez, des Indiens, des engagés indiens. Les origines d'un radicalisme local qui n'est donc pas importé, et cette adhésion à l'idée de communisme. Des luttes comme celle, par exemple, des milliers d'Antillais qui feront grève au canal de Panama, hein, et qui seront réprimés par les Marines américains. Ce communisme anticolonial et internationaliste forme une plateforme commune entre ces îles, avec des rencontres régulières, l'élaboration de déclarations communes et donc de beaucoup de rencontres. C'est un discours du commun qui s'énonce ainsi. Ce qui rassemble est l'anticolonialisme, une analyse de l'exploitation par l'État français et ses alliés locaux, les impasses de la départementalisation et de toute forme de dépendance, le désir de forger des fédérations régionales, hein, rappelons-nous la Fédération des Caraïbes ou la Fédération des Mascareignes, un impérialisme déclaré, une solidarité profonde avec les luttes nationales d'indépendance contre les impérialismes états-uniens et français et contre la militarisation. Donc c'est vraiment reprendre cette histoire qui est quand même très peu racontée dans sa spatialisation et dans ses relations. La pacification face à ces montées, hein, et donc ce communisme, je le rappelle, d'essayer de comprendre pourquoi une femme de ménage, pourquoi une ouvrière agricole, pourquoi un ouvrier d'usine, pourquoi un instituteur, pourquoi des employés adhéraient au communisme anticolonial. Qu'est-ce que c'était ? De s'éloigner de l'histoire européenne occidentale. De comprendre aussi que des femmes et des hommes sont voyagés à l'époque de Guadeloupe, de Martinique ou de Réunion, aller à Berlin, à Bucarest, à Cuba, alors qu'à l'époque, ces personnes ne voyageaient pas, sauf pour venir en France. Donc, quel a été l'effet de ces rencontres, d'aller dans ces pays ? Et de ne pas le réduire à cette histoire de l'anticommunisme européen. Comment ça les a transformés ? On connaît par exemple l'amitié entre Gertie Archimède et Angela Davis. Hein, Gertie, quand Angela Davis est arrêtée en Guadeloupe à son retour de Cuba avec une délégation noire américaine, le préfet saisit leur passeport et puis des journaux qu'il dit, qui sont donc des publications communistes anti-impérialistes. Gertie Archimède, qui était donc avocate, une des premières avocates noires, va prendre leur défense et va nouer donc une amitié. Et on retrouve par exemple des mots d'Angela Davis qu'elle adresse à Gertie Archimède parce qu'elle devait se retrouver justement à Moscou lors d'un congrès international de femmes communistes en disant « Je suis désolée, je ne peux pas venir, mais on se verra bientôt ». Ces amitiés, pour reprendre le terme d'Olivier, sont extrêmement importantes à remettre en lumière. Donc face à ces mouvements, évidemment, et à cet internationalisme profond, il y a la pacification de ces années 50-80. Elle s'accélère évidemment face à cette émergence, à cet internationalisme. Il y a le Bumidom, c'est-à-dire l'émigration forcée par l'État, où des dizaines de milliers de jeunes vont être obligés de quitter la Guadeloupe, la Martinique, en moins grand nombre la Guyane, mais aussi à La Réunion. Les divisions qui sont entretenues, mais aussi les procès, les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État qui s'empilent. Et l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est une des accusations les plus graves qu'on peut faire. Il y en a à ce moment-là des dizaines et des dizaines dans ces pays. Et comment donc ? Alors, quelques moments, là, rapidement, en 1963, le procès de l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, l'OJAM, je vous conseille de voir le film de Camille Mauduache à ce propos. Et c'est vraiment, là, c'est de nouveau, atteinte à la sûreté de l'État. Donc, et le 10 décembre 1963, le président de la 16e chambre du tribunal correctionnel énonce alors son jugement contre ces jeunes qui avaient dit simplement, dans son manifeste de la jeunesse de la Martinique, cette phrase, ce slogan, « La Martinique aux Martiniquais ». Et c'est ça qui fonde l'accusation de l'État français. Il y a donc 5 condamnations et 13 relax contre les 18 prévenus, 18 jeunes Martiniquais, qui sont âgés de 19 à 33 ans, qui se présentent donc devant le tribunal. En autre procès, tout ça, c'est le procès qui se passe, le procès de l'OJAM est à Bordeaux, et ce procès dont je vais parler, il est à Paris. Donc des grands moments. Le procès de 68 contre 19 membres du groupe d'organisation nationale guadeloupéen, le GONG, par la Cour de sûreté de l'État. Ils sont inculpés du délit d'atteinte à l'intégrité du territoire national, pour s'être, selon l'accusation, je cite, « livré à des activités tendant à séparer de la France le département de la Guadeloupe ». Donc la question de la séparation est vue comme une atteinte à la sûreté de l'État. Ce gong, il a été créé en 1963, après la dissolution du front anti-yoguyanais, auquel appartenaient d'ailleurs Glissant et d'autres, et dont il voulait faire le front de libération nationale, mais bon, ça s'est pas fait. Donc le gong se constitue avec des membres en Guadeloupe et en France. Et le gong est très critique à l'heure du programme d'autonomie qui avait été adopté beaucoup par les partis communistes des différentes îles. Dans leur charte, d'ailleurs, ils citent d'autres pays et ils disent Chine, Vietnam, Indonésie, Algérie, Cuba, Zanzibar ont balayé l'impérialisme. Suivons leur exemple. L'impérialisme français est un ennemi mortel du peuple guadeloupéen. Pour la liberté totale, dehors, nous vaincrons. L'autonomie, disent-ils, est une fleur empoisonnée. La charte proclame la nécessité, je cite, de réaliser la révolution. De, je cite encore, construire une Guadeloupe souveraine. Et je finis, le droit du peuple guadeloupéen à disposer de lui-même. Il envoie le gong en janvier 66, va envoyer des délégués à la conférence tricontinentale de La Havane, toujours cet internationalisme, où est votée d'ailleurs lors de cette conférence une résolution pour l'indépendance de la Guadeloupe. Donc on voit de nouveau la circulation internationaliste. En janvier-février 67, le gong prend à partie le Parti communiste guadeloupéen, et je le cite, « La petite bourgeoisie du Parti communiste guadeloupéen réclamait depuis 1958 une autonomie de gestion. » Le gong, lui, luttait pour entraîner les masses paysannes et ouvrières dans une lutte pour une transformation radicale sur un mode d'ordre d'indépendance nationale. Quand nous avons signé le manifeste des organisations anticolonialistes des Antilles et de la Réunion en 63, nous le considérions comme une plateforme pouvant lancer la lutte des masses dans les trois territoires. Au cours de l'instruction, un des inculpés va déclarer, je cite, « Le problème guadeloupéen ne peut pas se régler par des procès ou des tueries. C'est un problème que le gouvernement français doit prendre au sérieux. » La position du ministère public est alors celle-là, je cite, « Partisan de la violence, mais incapable de la susciter. » Le gong était à l'affût du moindre incident. Il s'efforçait, dès qu'il s'était produit, de l'envenimer, d'attiser la colère des foules par des récits tendancieux et l'annonce de fausses nouvelles. Bref, il profitait de toutes les circonstances pour affirmer et propager sa doctrine, le séparatisme. À l'époque, toute demande d'autonomie et d'indépendance est vue comme sous le nom de séparatisme. Et ce séparatisme est justement justifie les atteintes. Le séparatisme, par exemple à La Réunion, le terme d'autonomie sera une raison d'inculper des personnes. Vous écrivez le mot d'autonomie, ou même dans les journaux, vous pouvez être inculpé. Donc on voit à quel point ce terme d'autonomie, qui est quand même un terme politique, un terme absolument fondamental dans les notions de même d'État, sera refusé. C'est une énorme répression à l'époque qui se fait même sur un terme, sur une notion, donc sur une aspiration au droit de l'autodétermination, qui est un droit reconnu internationalement, dans la charte. Donc on voit, cette répression, elle pointe vraiment sur d'entraver, d'arrêter le désir de se diriger soi-même. L'interdit absolu de se nommer Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais, Guyanais. Il y a un interdit. Donc ça va évidemment se répandre. L'État français avait aussi peur des régionalisations de révolutions anticoloniales. Cuba représentait un énorme, évidemment, danger pour les Caraïbes. Et dans l'océan Indien, c'était ce qui se passait à Madagascar ou au Mozambique ou la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Une autre forme de répression a été l'ordonnance de Bray, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est prise pendant la guerre d'Algérie, quand l'Assemblée nationale accorde au gouvernement les pleins pouvoirs. Donc le but de cette ordonnance était de punir des fonctionnaires français qui auraient pris parti pour l'indépendance de l'Algérie. Elle devait sauvegarder l'État, c'est toujours... Mais elle concernait cependant moins l'Algérie, dès qu'elle est prise, que les autres possessions françaises, des Antilles, de la Réunion et de la Guyane. Elle est imposée après les émeutes de décembre 1959 à Fort-de-France, quand trois jeunes Martiniquais vont être assassinés par la police française. Elle est dénoncée comme d'emblée comme une ordonnance scélérate, mais ce texte vise les forces de gauche et d'extrême gauche aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, en condamnant à l'exil principalement des membres et des sympathisants de partis communistes, de syndicats et des militants anticolonialistes. Un Guyanais, 4 Martiniquais, 9 Guadeloupéens, 13 Réunionnais seront exilés. Ils deviendront actifs dans les mouvements anticolonialistes en France. Donc de nouveau, cette circulation, ils seront vraiment au cœur de la création de mouvements anticolonialistes d'émigrés en France. Michel Debray, qui va être un personnage aussi important dans son maintien de la colonialité, va maintenir son attachement à l'ordonnance jusque, par exemple, en 1966, il va affirmer à propos de ses fonctionnaires, je le cite, « S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à démissionner pour marquer leur désaccord. Je suis profondément respectueux de la liberté, mais je ne vois pas quel est l'honneur des gens qui veulent à la fois être payés et cracher sur la main qui les paie. » L'ordonnance ne sera abrégée que le 10 octobre 1972. Que 1972. Donc tout ce temps-là, aucun des fonctionnaires, sauf de renoncer, donc certains des fonctionnaires qui ont été exilés vont renoncer à la fonction publique pour pouvoir repartir dans leur pays. Et donc, à côté de cela, il y a évidemment la censure. Les journaux sont censurés, les interdictions de rassemblement. Je me souviens qu'à La Réunion, par exemple, aucun rassemblement n'était autorisé dans l'espace public. Donc, on allait dans ce qu'on appelle les cours. C'était les cours des gens privés qui offraient leurs cours pour qu'il y ait des meetings politiques. Répression très brutale de grèves de paysans, d'ouvriers, et aussi l'utilisation de ce qu'on appelait les nervis, c'est-à-dire les milices personnelles des grands propriétaires, avec même des assassinats. Alors la réponse, évidemment, on l'a vu avec le gong et l'ojam, c'est l'affirmation du désir d'autodétermination, qu'elle soit par la forme d'autonomie ou d'indépendance. En 1971, il y a la convention de Morne-Rouge à la Martinique, où des partis et organisations autonomistes de la Réunion, la PAI indépendantiste, de la Guyane et de la Guadeloupe et de la Martinique se réunissent. Vont y participer des tas de personnes, je ne vais pas tous vous les nommer parce qu'il y en a énormément, mais là vraiment il y a l'Union des femmes, des syndicats, par exemple pour la Guyane, le Centre guyanais d'études marxistes dont qu'on connaît à peine, par exemple, on serait incapable de dire quels ont été ses travaux, des associations d'élus, donc pas simplement des partis, beaucoup aussi des regroupements de l'immigration martiniquaise, dont l'avocat Marcel Manville et Joby Fanon, le frère de Frantz Fanon. Aussi des membres par exemple, d'organisations catholiques de gauche, c'est-à-dire de la théorie de la libération. De nouveau aussi, toujours aussi des représentants de travailleurs réunionnais ou guyanais ou martiniquais en France. Et cette convention reçoit le soutien de travailleurs guyanais et du regroupement de l'immigration guadeloupéenne. Mais ce que je voudrais dire dans la déclaration solennelle, peut-être ce qui est important, c'est les peuples, je cite, ces peuples constituent par leur carte géographique, leur développement historique, leur composition ethnique, leur culture, leurs intérêts économiques, des entités nationales. C'est la première fois que ce terme « entité nationale » est utilisé en 1971 pour nommer ces peuples. Donc, c'est plus simplement des peuples, c'est des entités nationales. Donc, c'est l'affirmation de l'existence de nations, dont la réalité est diversement ressentie dans la conscience de ces peuples. Je continue à citer. « En conséquence, nul ne peut disposer d'eux par aucun artifice juridique. Ce sont des peuples, eux-mêmes, qui démocratiquement et en toute souveraineté détermineront leur destin. » Donc c'est à l'ère de la décolonisation, on ne peut limiter le champ des pouvoirs de décision à reconnaître à ces peuples. Voilà, dans un moment précis de l'histoire, dans l'ère de l'impérialisme où ils vivent, dans le contexte économique que la puissance coloniale leur a imposé, ces peuples peuvent décider de revendiquer l'exercice d'une partie de ces pouvoirs. Donc on le voit, c'est vraiment... C'est fini, c'est ça ? Ok. Donc on le voit, ces termes sont extrêmement importants, entité nationale, la possibilité de reconnaître l'autodétermination. Il y a tout un programme économique, social et culturel qui réaffirme aussi la possibilité de décider pour soi ce qui sera cultivé, comment, le plan culturel. Donc c'est vraiment, on est là, ces notions de peuple, d'entité nationale, d'État, de programme économique et culturel sont absolument essentielles. Va s'en suivre évidemment une énorme répression. Et qui va aussi prendre un point en 1981 avec l'élection de François Mitterrand et de nouvelles formes de pacification. D'une part, évidemment, à la suite de la longue tradition coloniale du Parti socialiste, avec la capacité donc de ce Parti socialiste d'éteindre les luttes anticoloniales. On se souvient de la déposition du Parti socialiste lors de la guerre d'Algérie. Donc d'instituer des nouvelles divisions, mais aussi d'insister sur le rôle de la culture. Donc la culture et les arts vont être pris comme armes de pacification extrêmement importantes. Jusqu'à présent, répression de la langue, répression des arts, et tout d'un coup, les musiques sont mises en avant, le maloya devient vraiment la musique de la Réunion, c'est la musique monde, il y a des nouvelles formulations, la Réunion c'est l'île de tous les métissages, enfin voilà, il y a tout un truc de tourisme aussi, de mise en avant d'endroits exceptionnels et vraiment de célébration des cultures. Hein. Et en même temps, évidemment, on a le grand remplacement en Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de faire des Kanaks une minorité dans leur propre pays pour entraver la décolonisation, le refus de la demande de décolonisation des îles du Pacifique, évidemment ce qui se passe à Mayotte, qui est une brutalité énorme, la stérilisation des femmes dans ces îles, l'abandon organisé par l'État, hein, et avec le discours réactionnaire de peuple qui reçoit les aides de l'État sans faire d'efforts, c'est très long. Donc l'État qui entre dans l'intimité des familles. L'arme aussi du racisme, comme je l'ai dit, lancé les uns contre les autres. Donc comme pour les 3 minutes qui me restent, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est de renouveler cet internationalisme. Quelle est la forme de l'internationalisme aujourd'hui? Réveiller cet internationalisme et sur quelle base, puisque les choses, c'est vrai, la situation est énormément changée. Quand on est dans la Caraïbe, on est au cœur de certaines d'autres choses. L'océan Indien, c'est au cœur d'une militarisation aujourd'hui énorme, hein, puisque l'océan Indien, c'est par là que passe le pétrole du monde. Et vous avez les pays du Golfe, vous avez l'Inde, vous avez le continent africain, vous avez l'Indonésie, le pays, la population musulmane la plus forte au monde. Enfin, vous avez là des conflits énorme et une militarisation accélérée de cet océan. Mayotte, découverte de pétrole et de gaz au large des rives de Mayotte, donc intérêt des corporations, recherche au profond des océans, donc aussi des formes de colonisation de l'océan bien plus avancées qu'il n'y avait dans les années 70-80, hein, de colonisation économique et puis évidemment de militarisation. On a aussi un affaiblissement, malgré tout, quand même, de l'impérialisme français. Il a moins de pouvoir face aux autres impérialismes qu'il ne l'avait dans ces années-là. Hein, par exemple, dans l'océan Indien, il doit faire face à la présence de la Chine, des pays du Golfe, des États-Unis, évidemment, de l'Angleterre. Il n'a plus autant de puissance. Et puis, bon, de toute façon, c'est une puissance déclinante. Renouveler aussi notre analyse de l'importance de la terre, qui a souvent été oubliée dans nos théories décoloniales. On peut penser évidemment aux travaux de Malcolm Ferdinand et de l'écologie décoloniale, mais nos réponses aussi donc au désastre de l'agrobusiness avec toute la lutte contre le chlordécone, mais aussi des luttes contre d'autres formes de pollution et de contamination dans toutes ces poussières d'îles. Rouvrir les archives pour puiser dans le passé des idées et des pratiques, malgré évidemment les transformations. Renouveler l'étude des impérialismes, hein, quels sont les impérialismes auxquels nous allons faire face. Et je l'ai dit, d'étudier le racisme comme arme de division, de voir comment, par exemple, à Mayotte, l'État français a réussi à lever les Maorés contre les Comoriens ou contre les Africains de l'Afrique centrale qui viennent se réfugier là. Comment un racisme absolument énorme se fait, que la population mahoraise vote en énorme majorité pour le Rassemblement national. À La Réunion aussi, des racismes contre les Maorés ou contre des Sri Lankais, enfin, les personnes qui se réfugient là, en Martinique et en Guadeloupe, contre les Haïtiens ou les gens qui viennent de la Dominique. Donc tout ça, l'importance de renouveler pour comprendre comment ont été contrariées ces indépendances et quelles sont les formes justement de lutte que nous avons, quelles sont les formes de lutte pour des indépendances, et donc quel sera le contenu de ces indépendances, contenu économique, contenu culturel, contenu artistique, quelle va être la forme et dans ces empêchements, dans les contrariations, parce que l'État ne va que contrarier. ces avancées, ne peut que les contrarier. La France ne peut que tenir à ses poussières d'île, parce que ces poussières d'île font d'elle la deuxième puissance maritime au monde, alors que la France est quand même grand comme ça. Ça en fait aussi une énorme influence culturelle, une énorme importance pour la recherche scientifique, ce qu'on oublie très souvent. Ça lui permet des avancées dans la recherche volcanologique à La Réunion, dans la forêt amazonienne en Guyane, dans la question des lagons en Martinique et ailleurs. Je veux dire, c'est la recherche scientifique sur les plantes, c'est énorme. Hein. Et tous les brevets, évidemment, reviennent à la France. C'est beaucoup plus important. Les laboratoires de recherche, on n'y pense jamais tellement. Ils sont absolument essentiels. Hein. Donc, ça lui donne une importance régionale. La France peut siéger dans les organisations régionales de l'océan Indien, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et du Pacifique. Je dirais alors qu'elle est là-bas en Europe. Donc tout cela vraiment doit être pour moi renouvelé et c'est extrêmement important de lancer cette recherche. Je pense que c'est vraiment notre tâche si nous voulons renouveler évidemment non seulement notre analyse politique mais nos pratiques politiques pour effectivement aller répondre, être fidèle à ce que demandaient ces mouvements et ces partis des années 70, c'est-à-dire nos souverainetés, que nous soyons, que nous disposions de nous-mêmes. Nous ne disposons toujours pas de nous-mêmes. Et comment on peut travailler évidemment avec la diaspora, mais il y avait déjà des liens entre diaspora et ces îles à l'époque, et ces terres à l'époque, il y avait vraiment d'énormes relations. Donc de retrouver ces circulations d'idées, ces circulations de notions, quels ont été les termes, quels ont été les objectifs, et de voir aujourd'hui quels seront les objectifs dans le grand monde de la nouvelle décolonisation aujourd'hui, de cette importance de la décolonisation aujourd'hui, de mettre fin à la colonisation de peuplement, au principe de colonisation de peuplement, de mettre fin aux impérialismes, et de mettre fin à capitalisme racial destructeur. Donc cette lutte, elle ne peut être qu'internationaliste, elle ne peut être que faite en relation avec d'autres peuples et d'autres luttes, mais elle a aussi sa composante face à l'État français. Un État français aujourd'hui qui se militarise et qui, favorise la montée de l'extrême droite. Donc un internationalisme anticolonial et antifasciste. C'est vraiment, pour moi, cette recherche passionnante à laquelle, d'ailleurs, nous a invité Olivier, Sheila et les gens de l'ULIP et à laquelle nous allons participer toute cette semaine. Merci.
Moi, je voulais rebondir sur quelques points, justement, pour tisser un peu nos questionnements. Et il y en a deux d'entre eux... qui me semble intéressant si on part de cette idée de méthode, en tout cas de répétition différente, que ce soit dans les luttes ou dans les principes contre-révolutionnaires. Je notais dans ce que tu disais que dès le, notamment avec l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir en 81, on va s'intéresser beaucoup cette semaine à cette période-là, en fait, qui est très importante en Angleterre, autour de New Cross, ce qui va se passer pour les communautés noires en Angleterre, et ce qui va se passer aussi en France dans le même temps, sur la période 81-83 notamment. Tu montres en fait que, après un moment où quelque part la question des particularités culturelles va être chassée pour fabriquer des citoyens français, une autre méthode... et prend la place, et j'ai l'impression que ce geste-là, on peut essayer de le relire aujourd'hui dans une nouvelle itération qui est quelque part la célébration de la culture dans un espèce de paradoxe où on veut limiter la capacité d'autonomie de territoire tout en les célébrant, et comment quelque part la sphère culturelle et artistique participe paradoxalement à une pratique, on dirait, contre-révolutionnaire.
Oui, c'est extrêmement important d'étudier à la fois, bon, évidemment qu'il y a eu la répression des langues, répression des cultures, répression, je veux dire, tout était absolument méprisé, et puis tout d'un coup, célébration. Bon, la langue, c'est un peu plus compliqué, elle est toujours pas enseignée, elle est toujours réprimée dans les écoles, mais en tout cas, les musiques et les arts sont tout à fait célébrés. Parce qu'évidemment, pour l'État, et d'abord, comme je l'ai dit, hein, le capitalisme a besoin de marchandises et ça lui offre des marchandises. Il peut, je veux dire, de manière sans... sans se mettre énormément en danger, même de parler de métissage, de pluralisme culturel. C'est beaucoup plus dangereux de parler de la terre, de la question de la terre et de l'eau, par exemple. Qui sont en crise, l'eau, crise en Guadeloupe, crise à Mayotte, crise en Kadaki. Je veux dire, l'eau, la terre sont des demandes qui balayeraient beaucoup plus profondément les structures en place. Et quand tu le disais, par exemple, dans toutes ces années-là, il y a eu des formes graphiques de ces demandes. Il y a eu, on en sait peu, quoi. Je veux dire, c'est pas tellement mis en avant. Et donc, c'est aussi là, quelles seraient les formes graphiques aujourd'hui, quelle traduction visuelle on ferait aujourd'hui de ces demandes autour de la terre et de l'eau. Et de les rendre, de montrer comment elles sont profondément révolutionnaires. Et là, évidemment, ça peut tout à fait se faire dans les arts et la culture.
Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à la fois une tradition de lutte inscrite dans des formes culturelles, qui semble être aujourd'hui très lointaine, où je dirais que l'aboutissement d'un processus que je nommais tout à l'heure de métaphorisation de la politique fait que la possibilité même de l'acte culturel comme acte politique, qui est quelque part, on en avait parlé, dans des grands moments et dans des grandes rencontres, de anticoloniales et révolutionnaires, il y a toujours eu, jusqu'au Bandung, un large volet culturel qui participait à ces moments politiques. C'était pas quelque chose qui était en dehors de cet espace-là, mais dans le même espace, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais il y a énormément de journaux dans les années 70, de journaux et de revues culturelles dans tous ces territoires, énormément, qui exprime des tas de choses. Je veux dire, il y a vraiment une incroyable source de référence. Et effectivement, ça s'efface. Alors, la musique rentre dans la musique monde, dans le concert, etc. Bon, pourquoi pas, hein. Mais enfin, je veux dire, ça rentre dans le marché et ça perd complètement le lien avec les résistances. C'est-à-dire, ces musiques, elles sont nées dans les plantations. Elles sont nées comme forme de résistance. Et tout d'un coup, elles arrivent sur les salles de concert. Bon, pourquoi pas, mais quelle est la perte qui s'opère à ce moment-là, dans cela? Et ça, c'est la force, effectivement, c'est la force du capitalisme de transformer, d'offrir ça, de la possibilité de devenir aussi des vedettes internationales. Je veux dire, c'est quand même, c'est pas négligeable.
Ça va être le
cas qu'elles savent. Voilà, c'est pas négligeable, je veux dire, c'est une offre, alors que, par exemple, sur le territoire même, on va avoir à peine des écoles d'art, ou alors elles vont être sous l'emprise d'institutions françaises. On le sait pour La Réunion, par exemple. Enfin, je veux dire, donc, il y a à la fois... c'est ces deux mouvements constamment, c'est de mise en avant et d'entrave. Donc, si on ne regarde que la mise en avant, on se dit, mais les choses ne se passent pas si mal, parce que finalement, avant, il n'y avait pas tout ça. Et maintenant, il y a ça. Donc, il y a eu progrès. Donc, on voit ce qui est visible. Et ce qu'on ne voit pas, c'est quelles sont les entraves qui sont mises sur place. Il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a aucune souveraineté, ni artistique, ni culturelle, ni rien. On dépend des subventions que vont donner les institutions. Donc, il y a bien sûr, mais dans ce que tu disais, c'est-à-dire dans la formation, c'est ça que l'État met en avant.
Après, il y a un moment il y avait beaucoup, beaucoup de moments qui sont extrêmement importants. Je voulais en attraper un autre avant de vous donner la parole, qui je crois est significatif et un peu particulier de la situation des Outre-mer françaises, quoi, qui est ce moment de Bumidome. Parce qu'effectivement, si on regarde d'autres grandes immigrations postcoloniales françaises, leur situation dans la société française est différente. On peut prendre l'exemple des Algériens avec la formation de cadres intermédiaires sur la scène intellectuelle et politique, leur position aujourd'hui. Il y a un espèce de moment de trou là, dans une continuité de la transmission politique intellectuelle qui fait que après la première, on va dire, constellation intellectuelle, on va dire caribéenne, mais en réalité qui est beaucoup plus large que ça, des années 50. Je dis constellation parce que là, on a des figures à la fois très connues, mais on oublie de regarder le petit nombre qu'elles composent. C'est pas beaucoup de gens, mais qui sont très rayonnants. On n'aura pas l'effet dans la génération suivante de masse critique, d'universitaires, de chercheurs, Il y a quelque chose qui est coupé à ce moment-là. Et alors, on peut trouver différentes sources à ça. Qu'est-ce que tu penses de cette rupture d'une forme de continuité, on va dire, après les années 50, où les personnes issues d'outre-mer se retrouvent avec des futurs leaders des pays indépendants africains. Il y a vraiment une convergence politique, esthétique extrêmement forte. Mais les décennies 60-80 sont plutôt des décennies de coupure de ça, notamment avec l'effet de l'exil forcé du Bimidom.
Oui, alors... Je trouve pas mon mot en français. Enfin, bref, il y a à la fois ça, mais il y a aussi de nouvelles formations. C'est très militant. Ça peut être très militant. C'est moins universitaire et c'est très militant. Moi, je veux dire, ça défilait sous les bannières antillais, guyanais, réunionnais, en lutte, etc. Je veux dire, tout le monde défilait derrière la même banderole. Il y a l'occupation du Bimidom. L'action à Crouy-sur-Ourcq, où on apprenait aux jeunes femmes des Outre-mer à devenir des servantes, enfin des domestiques. Il y a des actions, mais c'est vrai que ça s'éloigne du monde universitaire. Enfin, ou intellectuel. Il y a là où je te rejoins dans ton intervention précédente, c'est qu'il faudrait retrouver les tracts, ce qui s'écrivait, de ces personnes, dont certains vont rejoindre les syndicats, beaucoup. Alors là, il y a une très grande syndicalisation de ces personnes qui travaillent dans des usines et qui se retrouvent à être immigrés, qui racontent leur étonnement d'être traités comme des Algériens ou comme des Africains subsahariens parce que ces personnes se pensaient françaises. Je veux dire, c'est ce qu'on leur avait dit quand même. Et donc, il y a tout ça, ce qui est intéressant aussi à voir. Il y a aussi le fait de la honte de certains, certains partent très très jeunes. Elles ont 16 ans, 17 ans, certaines des jeunes femmes. C'est très jeune, donc elles vont en fait devenir adultes ici et se fondre aussi, vouloir s'intégrer. Je veux dire, donc il y a les deux phénomènes d'intégration et de politisation pour certaines. Je veux dire, donc il y a les deux phénomènes et donc il faudrait qu'on étudie comment ça se passe là et pourquoi et pas là. L'utilisation la manipulation des femmes va être très importante, très très importante. Ça, c'est suivant la phrase de Frantz Fanon, ayez les femmes, et le reste suivra, va être beaucoup plus importante. Alors, avec des choses aussi contradictoires, où des femmes peuvent gagner en autonomie aussi en venant ici, en échappant à des sociétés quand même assez aussi patriarcales. Donc, tous ces phénomènes devraient être menés de manière plus fine, tu vois, ces analyses plus fines. Mais c'est vrai que ça passe à la fois, c'est militant. C'est très, très militant. Et ce militantisme a été un peu oublié.
Et il passe sous, quelque part, aussi des formes de représentation. Parce que si on va à cet endroit-là, il y a la forme intellectuelle qui va être la génération précédente, à la fois remarquable, mais à la fois extrêmement isolée, individualisée. Et ce que tu dis là, ça me fait penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui passe sous le radar de la représentation, donc de l'écriture, donc du discours autorisé, mais aussi des formes. Et on trouve peu, finalement, choses qui vont témoigner et documenter de ces réalités-là.
On sait très peu de choses de toutes les réunions qui se passent à Paris ou ailleurs en France entre ces militants. Je veux dire, on n'en entend pas parler. Tu vois, ce qu'on entend dire, c'est toujours, Fanon, Glissant, tout ça, ce qui est important. C'est pas ça que je dis, mais on n'a strictement aucune idée de ce qui se passe souterrainement, comme tu dis. C'est-à-dire de ce qui, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Bordeaux, ces gens se retrouvent, quoi, si tu veux. Et puis alors, tu as aussi des étudiants, la rencontre qui se fait dans les années 80, plutôt, n'est plus la même, effectivement, que dans les années 70, mais elle existe encore. Et il va avoir aussi, non seulement évidemment syndicalisation, mais aussi dans l'extrême gauche. Je veux dire, on va trouver des Antillais au Larzac, dans les luttes contre la militarisation du plateau du Larzac. Donc là où on a vraiment besoin d'une histoire plus fine, d'une recherche plus fine de tout cela. On est, comme tu le dis, noyé sous des grandes généralisations et on ne voit pas du tout ce qui se passe à ce moment-là, quoi.
C'est une chose qu'on examinera déjà cet après-midi avec Jérémy et aussi avec Shock One autour de la question du graffiti. On voit aussi une tendance forte à la disparition des Antillais dans des mouvements dans lesquels ils sont jamais spécifiquement nommés comme participants. Bon, on verra aussi que dans la communication vers le territoire, vers les Antilles, la banlieue de Paris n'est pas un sujet pour, à l'époque, la télévision des Outre-mer. En fait, on veut pas parler de la présence antillaise dans les milieux populaires et dans les banlieues. Et on verra aussi jeudi avec Pierre Vincent qui est ici, avec Mognis Abdallah, que finalement, en fait, des mouvements de quartier impliqueront des Antillais jamais nommés en tant que tels.
Non, jamais nommés. Mais en même temps, par exemple, comme tu le sais, puisqu'on en avait parlé, l'effacement de l'Alliance révolutionnaire caribéenne qui fait quand même sauter le monument Marchand à Paris. Je veux dire,
on ira mercredi matin sur place, d'ailleurs.
Qui fait sauter des agences de Air France. Qui, je veux dire, cette histoire est totalement effacée dans l'histoire des luttes. Les protestations contre l'intervention au Tchad, c'est-à-dire justement encore un internationalisme très fort, mais qui ne fait pas partie du monde universitaire ou du monde officiel, intellectuel. Donc qui est effacé, mais il y a un militantisme.
Et enfin, dernier point qui est à la fois interne à la Caraïbe, mais qui a ses conséquences dans les diasporas aussi, le travail de fond de l'État français pour séparer quand même les Antilles d'avec Haïti, donc l'ancienne grande colonie de Saint-Domingue, de son influence à la fois intellectuelle, révolutionnaire, et en faisant une forme d'épouvantail. En tout cas, moi j'ai été éduqué dans l'épouvantail haïtien pour les Guadeloupéens.
Haïti et Cuba. Cuba, et ça va. Cuba, 59, l'État français est paniqué. Paniqué que des jeunes Guadeloupéens et des jeunes Martiniquais puissent rejoindre. C'est très fort, la révolution cubaine à l'époque. Pareil. Et le fait que, tu vois, quand il y a des jeunes du GONG qui vont à la tricontinentale. Je veux dire, ça, c'est oublié. Or, l'importance de la tricontinentale. C'est pour ça que je disais que, tu vois, pour étudier cette pacification, il faut aussi revenir à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la peur, panique à l'état de tout ce qui se passe, tu vois. Et puis, par exemple, bon, dans l'océan Indien, les liens avec le Frelimo du Mozambique, je veux dire, toute une autre histoire parce que l'obsession de penser constamment ces territoires avec la France. La France encore écrase, tu vois, les singularités des luttes, tu vois, et le désir de s'associer à des luttes autour de soi, et pas simplement avec les partis français.
Ouais, mais on pourrait dire notamment que l'une des conséquences que ça a, c'est que l'agenda politique de la gauche française, ne correspondant pas complètement à la manière dont il se formule dans les Outre-mer, il est méconsidéré, notamment avec le Parti communiste, on peut dire que...
Ah oui, tout à fait. Et en fait, même si tu veux, il y a des choses à voir, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps où ces mouvements anticoloniaux de ces poussières d'île étaient capables de dire à la gauche française on vous soutient pour les élections présidentielles si vous acceptez notre programme dans votre programme. Aujourd'hui, tout le monde suit. Il y a ça aussi qui est une perte. Il y a une perte de parce qu'il y a eu la perte de l'anticolonialisme. Il y a une perte parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de colonialisme. Il n'y aurait plus de colonialisme. Donc, il y a la perte aussi de la force du mouvement, de la notion d'anticolonial. Et puis, en France, il y a eu un anti-anticolonialisme. Toute une génération d'intellectuels dans les années 80 qui disent « Mais nous étions pour les indépendances, mais regardez ce que ça a donné. » Des dictatures, les femmes renvoyées à la cuisine, enfin, je veux dire, on le sait. Des personnes qui avaient été dans les mouvements anticoloniaux vont devenir anti-anticolonial. C'est-à-dire... Oui, bien sûr, c'était normal de l'être. C'est-à-dire que comme ces personnes qui ont été anti-esclavagistes, mais n'ont jamais été anti-racistes. Donc on pouvait être anti-colonialiste, mais pas anti-raciste. Donc en fait, finalement, on est anti-anticolonial. Donc c'est un anticolonialisme qui, comme Fanon disait, aussi longtemps que vous suivez nos formes de lutte, aussi longtemps que vous acceptez que c'est comme ça qu'il faut lutter, on sera avec vous. Le moment où vous voulez lutter comme vous le décidez vous-même, c'est plus possible. Ça aussi, c'est à étudier. L'incroyable anti-anticolonialisme qu'il y a dans les années 80, dont on peut penser les Bruckner et compagnie, Fardeau de l'homme blanc, tout ça, qui ont contribué à aussi à faire effacer ces luttes, notamment parce qu'elles s'appelaient communistes et indépendantistes. Et donc, communiste, c'était Goulag et compagnie. Indépendant, c'était dictature et compagnie.
Mais on peut noter enfin que, et on en parlera tout à l'heure en écoutant aussi le documentaire sonore de Samora Curier, en parlant avec lui, qu'enfin, et ça c'est les gens de ma génération, on grandit aussi sur le fait que la radicalisation de l'indépendantisme va produire une punition qui fait qu'on doit absolument pas y être lié, ni par son nom de famille, ni par ses amitiés, et que là, à un moment donné, il y a quelque chose de toxique dans d'être en rapport avec ces luttes-là.
Ah, c'est très important ce que tu dis, parce que la peur, si tu veux, la peur qui s'est faite aussi par l'ordonnance de Bray, tout ça, etc. Si tu lèves la tête, quand même, tu perds ton boulot, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Le fait de donner les allocations familiales, tout ça, si tu es gentil. Je veux dire, toute une série de conditions données à, finalement, vivre, à la survie. À la survie, tout simplement. Et la peur, effectivement. Et puis, alors, cette peur intérieure, et puis cette peur en disant, pour les Antilles, regardez Haïti, c'est ça que vous voulez. Et à La Réunion, c'est regardez Madagascar, c'est ça que vous voulez. Et même, à La Réunion, des voyages seront organisés avec les personnes âgées à l'île Maurice, parce que dans les premiers temps de l'indépendance, l'île Maurice, c'est assez difficile, à Madagascar, pour dire, voilà ce que c'est. Donc la France, elle vous protège. Et c'est une protection, c'est la corde du pendu, quoi. C'est une protection qui est la corde du pendu.
On va peut-être prendre une ou deux remarques avant la pause dans le public, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on a un micro. Ouais, Lisa a un micro. Si quelqu'un veut faire une remarque, poser une question, c'est ici. Mais Lisa, tu peux. Alors, on vous demande de parler dans le micro parce que c'est enregistré, hein, si ça ne vous dérange pas.
Can I make the question in English? I was wondering about the question of internationalisms and trans-imperialisms and effacement of struggles about the role of, in relation to the 60s and what is going on now, for example, between the investments of Chinese banks and Chinese construction companies in the Caribbean, and the struggles that are not really visibilized in any way whatsoever, discussed, and in what ways are these struggles possible, if you know any about this.
May I answer in French, so to continue? Yeah.
You can speak. I understand French.
Okay. No, because comme ça, je continue. Alors, plusieurs choses. D'une part, il y a qu'il y ait aujourd'hui des capitalismes et des États qui investissent et qui veulent investir partout. Ça, effectivement, il n'y a plus que seulement les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a les pays du Golfe, il y a la Turquie. Tous, il y a de nouveaux acteurs capitalistes dans le monde. Donc, on peut se focaliser sur la Chine, mais enfin, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a des interventions aussi de banques. Je veux dire, c'est, en fait, la domination de l'Occident, elle est affaiblie. Bon, ça, c'est une première constatation. Elle est affaiblie. D'autres systèmes bancaires, d'autres systèmes d'investissement financier se sont dit, pourquoi pas nous, je dirais, après tout. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres États qui se lancent dans des investissements ou dans des installations bancaires. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les pays occidentaux. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, ce sont des formes de capitalisme qui sont un peu différentes parfois des capitalismes précédents. Par exemple, c'est un capitalisme qui n'impose pas nécessairement, par exemple, une assimilation culturelle ou linguistique. Bon, donc il faut les analyser comme tels. Sinon, il y a des grèves. Enfin, ça, c'est pour le continent africain subsaharien que je connais. Il y a eu des grèves contre des compagnies chinoises ou coréennes, ou pas seulement chinoises, d'ailleurs coréennes. À Madagascar, vous avez des investissements coréens. Tout ça, je veux dire, c'est de l'extraction. La question de l'extraction aujourd'hui, évidemment, tout le monde s'y met. toute la possibilité. Mais les immenses grands groupes restent les grands groupes quand même canadiens pour l'extraction. Canada, extraction, vraiment encore plus important que coréen, Sud-Corée. Je veux dire, donc, il faut là où refaire, pour reprendre le mot, de cette cartographie de ces formes de capitalisme aujourd'hui qui reposent évidemment sur la dépossession et l'extraction minière et puis agricole, et qui montre un visage un peu différent, assez différent de celui qui existait dans les années 70 où dominaient les impérialismes occidentaux. Ben, aujourd'hui, il y a d'autres acteurs. Ça nous oblige, c'est ça que je disais, c'est-à-dire que la situation a changé, ça nous oblige aussi à considérer ces nouvelles formes, cette nouvelle réalignement du monde, et qui est de toute façon, qui s'accompagne du fait que l'Occident n'est plus le seul capable de s'imposer. C'est une nouvelle situation, mais elle n'est pas en elle-même. Je veux dire, que des pays, que des États veuillent exister dans le capital et la finance n'est pas en soi, condamnable. Il n'y a pas de raison que ces États laissent simplement aux États-Unis ou aux pays européens l'hégémonie de cela. Après, c'est ça, l'analyse de comment fonctionnent ces capitalismes, ces investissements est absolument important. Les luttes qui se déroulent contre ces capitalismes et ces corporations, bien sûr. Mais au départ, le fait que des États aient voulu participer à l'extraction du monde pour s'enrichir n'est pas en soi quelque chose de moralement condamnable.
Enfin, j'ajouterais quelque chose qui... dans ce travail d'analyse où on a parlé donc de différents niveaux, par exemple un niveau politique, des niveaux culturels, ce serait intéressant de voir qu'en fait, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une nouvelle polarisation du monde, on pourrait tout à fait imaginer de se dire que la nouvelle polarisation du monde peut être favorable à des territoires plus petits parce qu'ils peuvent faire jouer des éléments de concurrence. Encore faudrait-il avoir un système bancaire autonome. Et ça, on peut prendre un nouvel outil, là. Du coup, des économistes pourraient regarder la Caraïbe et vous montrer, en fait, que vous êtes bloqué, si vous ouvrez un compte en banque, dans la plupart des banques de Caraïbes qui servent principalement à des paradis fiscaux, quoi. Si vous voulez montrer, c'est un des gros problèmes qu'a le CARICOM, donc la région économique Caraïbe. Quand on veut faire des collaborations entre Bahamas, je cite les noms, Bahamas, Îles Caïmans, etc., Haïti, pour des raisons différentes, vous êtes tous des pays classés dans le rouge au niveau bancaire. Donc il est impossible de créer un système bancaire caraïbien, transcaraïbien à cause de ça. Et ça, c'est un truc vraiment intéressant, par exemple. Typiquement, on se dit, si autour de la table, il y a d'autres puissances, peut-être que ces régions-là, tu vois, entre les Russes d'un côté, les Américains de l'autre, on va mieux s'en tirer. Mais encore une fois, il y a une problématique qui est très profonde et qui est historique dans la Caraïbe, qui est la problématique bancaire. On sait que le système bancaire occidental s'est construit et enrichi sur la constitution de ces territoires, comme le système des assurances. Mais on sait aussi, on sait moins, qu'il y a peu de systèmes bancaires reconnus au niveau international. Quasiment aucun des pays n'est pas dans une catégorie, qu'il soit indépendant ou pas, dans une catégorie rouge. Quand vous êtes, moi c'est mon cas, je travaille beaucoup dans la région et j'envoie de l'argent à des collègues, par exemple en Haïti, tous les mois vous avez Western Union au téléphone, Vous devez montrer votre identité, vous devez... toute circulation financière en direction de ces territoires-là est sous une espèce d'éclairage de trafic, détournement d'argent, etc. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment intéressant parce que ça montre que la possibilité d'une région de se recomposer comme région repose aussi sur des vraies infrastructures de la banque, de l'assurance, qui sont historiquement des vrais outils de démocratie aussi, quoi.
Et puis, il faut ne jamais oublier les institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui jouent des rôles absolument aussi centraux dans l'organisation du monde et l'organisation de l'économie. C'est absolument fondamental et qui ont des programmes extrêmement importants. Je veux dire, pour nous aussi, ça veut dire de réanalyser comment s'est formée la loi du commerce, comment s'est formée les lois sur les brevets, comment la question de la dette, l'organisation de la dette. On est pris là-dedans. Et les pays post-esclavagistes, les pays qu'on connaît esclavage, sont les pays les plus faibles aujourd'hui. Pourquoi ? Certainement, ces après-vies de l'esclavage sont analysées au point de vue de ce qu'elles ont laissé comme héritage économique et de souveraineté. De toute façon, Haïti a été puni et est toujours puni et sera puni tant que le système capitaliste racial existe. Il ne peut pas y avoir de république noire libre dans le monde. Il ne peut pas. C'est impossible. Le jour où cette république noire pourra vivre sans constante intervention, c'est la fin du capitalisme racial. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas exister. C'est vraiment de comprendre pourquoi il y a eu l'écrasement à Grenade, pourquoi il y a eu chaque fois des écrasements. C'est pas des complots, c'est absolument une volonté à ce qu'il n'y ait pas de souveraineté. Quand je rappelais que la question même, le terme d'autonomie et d'indépendance sont des raisons de traîner les gens devant des tribunaux et de les faire condamner en France, ça montre à quel point même ce terme d'autodétermination, qui est quand même un principe reconnu dans le droit international, est impossible à même à prononcer. Et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est autorisé, c'est régionalisation à l'intérieur de la République française, donc un statut particulier. Mais sinon, pas du tout de souveraineté. Regardez comment l'État français empêche la décolonisation de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. L'empêche, l'entrave, mais concrètement, c'est pas simplement dans les discours, a fait que les Kanaks soient une minorité dans leur propre pays. Le grand remplacement, il a lieu là-bas. Je veux dire, c'est vraiment des entraves profondes. L'État français est un État impérialiste colonial.
Je dis pas que sur ces mots, on va faire une pause, mais c'est ces mots-là qui vont, en tout cas, ouvrir ce moment. On va faire une petite pause d'une dizaine de minutes et on va retrouver ensuite Samora Curier. On va se plonger pour cette première session et séquence un petit peu d'introduction sur plus particulièrement les indépendantismes guadeloupéens, les années 80, leurs conséquences, avec Samora qui va aussi nous présenter sa propre trajectoire. On va au fil de la journée aussi, justement, à partir de ces situations-là, tirer des fils dans des pratiques culturelles, artistiques. Tu as parlé des revues des années 60-70. On parlera aussi des podcasts, on parlera aussi des chaînes YouTube. Est-ce que ça peut aujourd'hui être des nouveaux relais? Qu'est-ce que ça donne qui manquait et qu'est-ce que ça n'apporte pas qu'il y avait? En tout cas, voilà, quels sont les intérêts dans le fait de moins se retrouver physiquement, mais de couvrir des plus grands territoires. On en parlera aussi avec Samora après l'écoute du documentaire qu'il a réalisé qui s'appelle Cascode. On se prend 10 minutes, un petit café, et puis on revient. À tout de suite.